à voix nue. Toute cette semaine, Claire Maillot rencontre Maurice Hollander. Ce soir, une poétique des savoirs.
Bonsoir Maurice Hollander.
Bonsoir.
Je vais commencer ce soir par vous adresser une requête. C'est né d'une frustration. Vous nous recevez ici à Paris, dans votre pied-à-terre. Alors, je pensais pouvoir jeter un œil indiscret dans votre bibliothèque. Elle est à Bruxelles, elle n'est pas à Paris. Alors là, on voit juste quelques papiers, quelques notes de travail, enfin, il y en a quand même pas mal. Mais on va beaucoup parler de lecture ce soir, de votre amour des textes, des livres presque comme des corps physiques. Alors, avant d'en venir à votre geste d'éditeur, est-ce que vous pourriez déballer votre bibliothèque? Plus exactement, est-ce que vous pourriez nous la décrire? Je crois que c'est une expérience assez dingue quand on rentre dans votre appartement à Bruxelles.
Alors, mes livres, alors que je suis domicilié à Paris depuis 1974 ou 75, puisque j'étais à ce moment-là pensionnaire étranger à la rue d'Ulm, plus tard... Je suis devenu français, mais j'ai toujours été résident fiscalement aussi à Paris. Depuis quelques années, les amis me disent Bruxelles, Bruxelles. Je dis ben non, je suis pas assez riche pour m'installer là-bas. Je n'ai jamais eu de métier ailleurs qu'en France. Mais en effet, mes livres, les livres de l'étudiant et les autres livres depuis accumulés, se trouvent à Bruxelles où je me réfugie régulièrement pour écrire. Alors, cette bibliothèque... Oui, elle doit ressembler un peu à ce que je raconte dans mon dernier bouquin. C'est une bibliothèque qui est née dans la chambre du Cliveur. Donc, c'était pas à Bruxelles, c'était à Anvers. C'est la période où, sans savoir pourquoi, c'est peut-être comme ça que tout a fonctionné dans ma vie, sans savoir pourquoi, j'achetais les œuvres complètes d'Euripide en grec avec une traduction latine alors que je ne connaissais pas l'alphabet grec. Et que je lisais pas le latin. Et c'était pas de la bibliophilie. C'était me coltiner avec ce qui m'échappe. C'était ne pas savoir. C'était s'exercer à ne pas comprendre. C'est une drôle d'affaire. Mais aussi, il y avait Spinoza, il y avait les nourritures terrestres qu'on a évoquées, il y avait quelques livres. Et puis bon, après, j'ai fait les études que vous savez, de philologie et d'archéologie, de préhistoire, et... Sans doute qu'il y avait une sorte de pulsion à vouloir avoir les textes proches de la main. Je donne un exemple. Il y a un tas de livres anciens. J'ai jamais acheté. Je ne suis pas bibliophile. C'est que je n'ai les rares livres anciens que j'ai sont des livres avec lesquels j'ai vraiment travaillé. Je parlais de Van Gorp, cet homme du XVIe siècle qui pensait que le flamand était langue du paradis. C'est vrai que très récemment, lorsque j'ai eu l'occasion d'acheter ce livre sur les origines anversoises. En latin, où il explique que le flamand est la langue du paradis. Oui, je l'ai acheté, je l'avais lu. En partie, lu, compulsé, cité, certaines pages en bibliothèque. Je vous rappelle que ce Van Gorp, complètement inconnu au paysage, si on peut dire, on le connaît parce que Leibniz fait son éloge en disant qu'en effet, les langues germaniques sont plus anciennes que les autres, etc. Bon. Donc, la bibliothèque qui se trouve aujourd'hui à Bruxelles, c'est quand même la bibliothèque d'un chercheur. C'est pas une bibliothèque généraliste. Une bibliothèque d'ailleurs qui appartient déjà, à l'instant où je disparaîtrai, à l'IMEC, puisque elle se retrouvera à l'IMEC.
Institut Mémoire de l'édition
Institut
contemporaine.
Institut Mémoire de l'édition demain. Contemporaine, dont en effet vous venez de dire, cette merveilleuse abbaye dont on parlera demain.
Ces livres, même si ce sont des livres de chercheurs, je crois qu'ils envahissent tout l'espace. Quand je parlais d'écrire, il y avait aussi cet aspect spatial.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des livres dans... Alors oui, on peut dire quand même... Que alors ça va inquiéter beaucoup d'êtres humains, ce que je vais dire. Et c'est un système rigoureux de non-classification. Je refuse, donc il n'y a pas d'ordre alphabétique. Tout est thématique. Donc oui, bien sûr, oui, d'accord, les textes grecs et latins, ou allemands, ou anglais, ou hébreux, oui, bon, ils sont rassemblés. Mais tout le reste, ce sont des rassemblements thématiques. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé pendant un moment sur les rapports entre les mots, les verbes, les mots, M-O-T-S, et la monnaie. Alors, il y a un amas monétaire qui concerne la blessure monétaire. C'est une histoire étrange, ce que j'ai découvert dans certains traités de la monnaie, notamment d'Orem au XIVe siècle, qu'il comparait la fabrique de la fausse monnaie au viol sexuel d'une femme. La blessure monétaire, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai publié des textes là-dessus. Il y a un amas monétaire. Vous avez évoqué l'appel à la vigilance, l'extrême droite. Il y a des massifs. Et puis, il y a toute une bibliothèque classique, grecque, et qui traverse, en effet, beaucoup de cultures différentes et qui concerne les représentations sexuelles, puisque ma thèse concernait les dieux Priape et la déesse Bobo. Donc, ce n'est pas une bibliothèque généraliste. Il n'y a pas un rayon.
Vous n'avez pas de bibliothèque généraliste?
Non, il n'y a
pas. Vous n'avez pas de roman?
Non, sauf ceux avec lesquels je travaille. Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de poésie. D'une certaine manière, c'est pas impossible que ma collection, la librairie du XXIe siècle, soit l'extrême contraire de ma bibliothèque de chercheur. C'est assez étrange à dire.
Vous avez une très belle formule. Vous revendiquez le droit de ne pas lire. Vous dites que le livre est le lieu d'un rêve. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Quel est ce rêve pour vous, Maurice Hollander?
Le droit de ne pas lire, peut-être que pour être plus précis, je dirais aujourd'hui, s'autoriser de lire sans tout comprendre, sans tout maîtriser. L'exemple le plus simple qui me vient, c'est quand on va au concert et qu'on écoute de la musique, on ne sait pas tout ce qu'on entend. Lorsqu'on va voir une exposition de peinture, on ne retient pas tout, le rapport que l'on a à la couleur et au son, je pense qu'il peut exister dans la lecture. On peut flâner dans un livre. Je me souviens d'un très beau texte d'Yves Bonnefoy qui dit que le moment le plus important dans la lecture, c'est quand le regard quitte la page et se lève, lorsqu'on se met à rêver. D'une part, cela. D'autre part, de manière plus concrète, alors c'est quoi le rêve d'une bibliothèque, le rêve d'un livre? Mais ça, chacune et chacun de nous, nous le savons, nous achetons beaucoup, beaucoup plus de livres ou nous en empruntons plus dans les bibliothèques que nous ne les lirons jamais. C'est quoi? Chacune et chacun de nous, ce soir, peut se poser la question, pourquoi j'ai tant de bouquins? Quelquefois même, je l'achète en sachant que je ne le lirai pas, mais je veux quand même être entouré par ces livres. Je crois que chacun, chacune de nous a réponse à cela. Je crois que pour moi, oui, peut-être que c'est le rêve d'une humanité, c'est paradoxal hein, ce que je vais dire, d'une humanité pacifique, parce que le livre en tant que tel, mais il y a beaucoup de livres qui ont fait massacrer beaucoup de gens, donc c'est compliqué.
Ce soir, j'aimerais qu'on revienne sur votre geste d'éditeur, même si vous n'aimez pas vraiment ce mot, on y reviendra. Celui que vous avez initié en 1985 chez Hachette, avec la collection Les textes du XXe siècle, et puis poursuivi au Seuil depuis 1989 avec la librairie du XXe siècle, puis du XXIe siècle. Quel était le premier texte que vous avez publié?
Les premiers textes que j'ai publiés, c'était...
J'appelle à votre mémoire.
C'était des volumes collectifs. C'était lié à la Belgique, c'était des colloques. Un colloque qui s'intitulait « Le récit et sa représentation », un autre « La séduction » avec Jacques Socher, un philosophe belge, et le troisième, donc avant, ce sont trois, c'est 78,
c'était
80.
Avant les textes du XXe siècle.
Ah oui, 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 et le troisième est un très gros volume d'hommage à Léon Poliakov, qui s'appelle « Pour Léon Poliakov, le racisme, mythes et sciences », où en effet, je voulais montrer qu'il fallait mettre sur le même plan les mythes et les sciences. Je ne vais pas vous dire tous les noms des auteurs qui étaient dans ce volume-là, vous le retrouverez aisément, le racisme, mythes et sciences, mais vous verrez que tout ce qui pensait à l'époque, tant dans les sciences que dans la littérature et dans les sciences humaines en France à l'époque, se trouve dans ce volume. C'était en 1981. Mais vous voyez là, il y a un premier moment éditorial qui me permet de rendre hommage à Christian Bourgois, parce que lui, en principe, allait publier ce volume. Parce qu'il y avait trop de signes, qu'il était trop gros, qu'il aurait fallu en faire deux ou trois volumes, il ne l'a pas fait. Mais quand vous me posez la question de l'édition, il faut que les choses soient claires. Être éditeur, c'est un vrai métier que je n'ai vraiment pas. Je veux dire que Jérôme Lindon était un grand éditeur, Christian Bourgois, Pierre Nora aujourd'hui, voilà des éditeurs qui ont une conception éditoriale de leur travail. Moi, c'était pas une vocation. pardon de le dire ainsi, mais si j'étais rentré au CNRS comme pas mal de mes collègues et amis à 26 ans ou à 27 ans, je savais même pas ce que c'était l'édition. Et l'édition, pour moi, a été la chance de travailler avec des femmes et des hommes que j'estimais, j'ai envie de dire que j'aimais souvent. C'est une manière de découvrir l'amitié dans le travail. C'est une phrase de Jean Starobinski dans sa préface à l'encre de la mélancolie où il parle du travail qu'on a fait ensemble. Et c'est vrai que cette collection, dont certains ont pu dire que c'est un apax, c'est-à-dire une exception dans l'édition française, à la fois parce que les livres sont traduits dans le monde entier, mais aussi parce qu'on y trouve, oui, aussi bien de la poésie, avec Paul Celan et bien d'autres, de la littérature, et beaucoup de savoir aussi. On parlait de Jean-Pierre Vernant, d'Henri Atlan, de tant d'autres. Mais pour moi, alors c'est peut-être entièrement du rêve, mais enfin c'est quand même du rêve assez vérifiable historiquement. Quand Jean-Pierre Vernant, je lui avais montré le film des frères Dardenne, Le Fils, et qu'il l'a regardé, je crois que c'est le seul film des Dardenne qu'il a vu, enfin que je lui ai montré, il était déjà très âgé, il m'a dit vraiment, ça me fait beaucoup réfléchir à ce que j'ai pu écrire sur la mort et chez les anciens. Et lorsque les frères Dardenne et Luc Dardenne me fait savoir qu'ils travaillent avec des textes de Starobinski, en écrivant leur scénario, je vois bien que le délire apparemment, mais très organique et organisé, je le souhaite, que peut présenter une collection comme celle de la librairie du XXIe siècle, a du sens pour les auteurs eux-mêmes. C'est vrai que Tabouki était un grand lecteur de Pérec, Olivier Rollin ou Lydia Flemme ont dédié certains de leurs livres à Pérec dans la même collection. Il faut me croire, c'est pas de la forfanterie quand je dis que cette collection, elle s'est faite, je dirais pas malgré moi, mais j'ai été comme une forme de passeur, voire de passoire, pourquoi pas, pour un certain nombre d'auteurs qui s'en sont approchés. Peut-être que c'est une collection, c'est peut-être ça aussi, qui a été pensée d'abord avec, par et pour des auteurs, en ayant confiance aux lectrices et aux lecteurs, en se disant qu'ils trouveront là des choses qui peuvent être importantes pour eux. Mais c'est un peu, oui, j'avance dans cette affaire comme un zombie. Alors, ce qui est très concret, c'est le travail merveilleux qu'on peut faire dans une maison comme Le Seuil. Je suis sûr que chez Gallimard, Grasset et d'autres, c'est sûrement la même chose. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de mettre au point un chantier complètement inédit de Georges Perec, Les Lieux. Quand je vois la qualité au Seuil avec laquelle on peut travailler avec des graphistes, avec les gens qui s'occupent du texte, il va y avoir une partie, il va y avoir une application numérique pour Les Lieux. Je veux dire, on médit beaucoup de l'édition, il faut quand même, et moi je dis, quand je dis que je ne suis pas éditeur, c'est par respect pour le métier d'éditeur, c'est pas, je veux dire, mais quand même ce sont des maisons aujourd'hui, si je pense au Seuil où se trouve cette collection, où on peut vraiment travailler. Je peux donner un dernier exemple, pourquoi pas. Jacques Roubaud vient de faire une autobiographie romanesque, dont on retrouvera dans mes archives que l'original est écrit en 5 couleurs. On est en train de faire plein d'essais pour voir comment on va faire pour que ce livre qui a 5 filons différents, il y a plusieurs autobiographies dans son autobiographie romanesque, comment faire pour transformer, par exemple, les couleurs dans des typos spécifiques, et comme on parle ici, là, en direct, je n'ai pas encore la réponse, donc quand les lecteurs prendront l'autobiographie de Roubaud, ils verront quel est le résultat que je ne connais pas. C'est-à-dire que on a le temps de travailler, et si vous me posez la question, en effet, de l'édition, il y a une chose qui, pour moi, était importante. C'était la seule chez Hachette en créant la première collection ou au Seuil depuis 1989. C'est de pouvoir allier l'artisanat le plus minutieux, ce qu'aujourd'hui, en 2017, je peux encore faire. Oui, je date la chose, parce que je ne sais pas quand on pourra encore entendre cette émission. D'une part, un artisanat minutieux, avec, oui, pourquoi pas, la grande industrie du livre. Parce que le projet de cette collection était avant tout, pour moi, un projet très démocratique. C'est-à-dire que vous me posiez la question de lire, de comprendre, de ne pas comprendre. Je me suis, vous l'avez compris, un peu fabriqué moi-même avant d'avoir été très très bien aidé par l'université. Et mon rêve, c'est que un grand nombre de lectrices et de lecteurs n'aient pas peur de lire des livres qui ne sont jamais difficiles, même s'ils sont exigeants. C'est ça un peu la colonne vertébrale de cette collection où il y a, vous le savez, de la musique, du théâtre et les toutes dernières phrases de Semprin quand il a fait la préface du poète péruvien Vallejo.
Je vais peut-être vous proposer un autre mot que celui d'éditeur, et ce mot c'est celui de la romancière Lydia Flemme, qui est aussi votre compagne. Elle dit, pour qualifier votre travail, elle vous considère, elle vous voit comme l'auteur d'une collection, et elle dit, il a bâti son œuvre entre littérature et savoir, à travers ses auteurs. Est-ce que vous souscrivez à cette proposition ? Vous vous décrivez plutôt comme un lecteur.
Alors... Il paraît, je dis ça parce que je ne suis pas juriste, mais je le sais, que la notion d'auteur est une notion juridique aussi, que ce soit pour une œuvre. Enfin, une œuvre peut être une collection, en effet. Donc, il y a de l'auteur, si vous voulez. Mon sentiment, on en parle souvent avec Lydia, mais mon sentiment, c'est vraiment d'avoir été fabriqué par les autres. Vous savez, les éditeurs, et peut-être quelquefois, ils ont l'idée qu'ils font quelque chose. Moi, j'ai l'idée que les livres que j'ai la chance d'éditer, je leur fais rien, c'est eux qui me font. C'est eux qui m'ont fabriqué. Alors évidemment, vous me direz, attendez, arrête de bavasser comme ça, c'est bon. Oui, c'est la seule chose que je fais, c'est choisir l'auteur, la dame ou le monsieur, à qui je dis, tu fais ce que tu veux. C'est la seule chose que je fais. C'est-à-dire qu'il y a, prenons un exemple clair, parce que ça a l'air un peu idiot comme ça, l'africaniste Marc Auger. Je lui avais simplement dit un jour, tu es un africaniste, si tu avais une idée en dehors de l'Afrique, j'aime beaucoup, c'est très important l'Afrique, mais enfin, ce qui m'intéressait, c'était le déplacement. Il a fait un ethnologue dans le métro, il en a fait deux volumes, dont le second est au seuil. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, au fond, la création d'une œuvre. Et si j'étais, vous savez, chacun de nous a le droit à ses fantasmes, si j'avais été, non pas, entre guillemets, éditeur, mais producteur de films, fantasme complet, hein, ne vous inquiétez pas, alors là, j'aurais rêvé de faire tout Woody Allen, tout Bergman, tout Fellini et quelques autres, les navets inclus. Ça, j'ai pas, aux éditions du Seuil, on ne me laisse pas faire tout ce que je veux, puisque c'est en effet, je ne suis pas un salarié du Seuil, et je suis un modeste directeur de collection, mais le rêve eût été de publier la totalité des livres de chacun des auteurs que je publie, pour qu'un jour on puisse regarder ce qu'un auteur a fait. Et lorsque vous prenez la liste des quelques 220 titres dans cette librairie du 21e siècle aujourd'hui, vous verrez que c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de noms par ordre alphabétique qui sont très présents et qui reviennent à un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, et ainsi de suite.
Mais l'œuvre aurait été très différente, l'œuvre de ces auteurs-là, puisqu'ils ont été publiés ailleurs. Et ce qu'on peut constater quand on est lecteur, c'est que les textes qu'ils vous donnent, ils ont l'air de s'autoriser beaucoup de choses, de s'affranchir de certaines contraintes, je pense à des contraintes didactiques. Ils peuvent s'autoriser à emprunter des chemins plus poétiques. Est-ce que c'est ça aussi que vous percevez ? Est-ce que vous, comme ça naît de votre désir, vous leur donnez carte blanche lorsqu'ils vous rendent leurs manuscrits ? Est-ce que vous pouvez être surpris parfois par les textes qu'ils vous proposent ?
Oh ben oui, j'ai souvent été surpris, y compris par des très grands auteurs comme Tabouki, quand j'ai eu la chance de publier, je crois que c'était le dernier roman de François Maspero, les livres d'Alain Fleischer, regardez Roubaud maintenant, Corinne Eddy, l'autobiographie romanesque. Je vous dirais que la présence des auteurs dans la collection peut aussi être guidée par leur propre fidélité, qu'il faut respecter, que je respecte tout à fait, à leurs éditeurs. Si vous prenez Jean Starobinski, ses grands livres, Diderot, Rousseau, d'autres, sont chez Gallimard. Et c'est le hasard de la rencontre et de l'amitié avec lui qui fait que ce qui lui paraissait être, lui, des livres ou des chantiers un peu latéraux pour lui, comme Action-réaction, comme Les Enchantresses, comme L'encre de la mélancolie, ou d'autres livres qui vont venir encore de Jean Starobinski, se sont retrouvés dans ma collection plutôt que chez un autre éditeur. Et puis, il y a l'aventure absolument non prévue, lorsque j'ai commencé à faire de l'édition, est-ce qu'on peut dire ça, si, peut-être, c'est tout ce qui s'est passé du côté des posthumes, que ce soit Pérec, que ce soit Lévi-Strauss, que ce soit Celan ou d'autres œuvres posthumes qui sont prévues encore.
J'aimerais revenir sur, au-delà du fond, les sujets des textes que vous publiez, c'est la forme qui importe beaucoup. Il faut, pour être publié dans votre collection, un style. C'est ce que vous cherchez dans un texte ?
Je pense que ce que je cherche dans un texte est extrêmement simple et extrêmement classique. Je le caractériserai par un terme que j'aime beaucoup, que très jeune j'avais lu chez Spinoza, et qui est l'adéquation. Alors l'adéquation, c'est ce qui est aussi approprié. Je donnerai un exemple simple que j'aimerais comparer à un livre. Un tabouret. Un menuisier qui fait un tabouret, lorsqu'il fait mal son tabouret, son escabeau, sa chaise, lorsque vous vous mettez sur cette chaise et qu'elle est mal fichue et que vous tombez, vous avez la colonne vertébrale brisée, vous pouvez en mourir. Je pense que les livres, oui, sont des choses précises, que les livres peuvent être extrêmement dangereux et une vigilance, une attention extrême à tout ce qui se publie me paraît très 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 important. Donc, le livre qu'un auteur me propose, la seule chose que j'essaierai de voir, c'est même pas tant est-ce que j'aime beaucoup ou pas ce livre, après tout, chacun le lira comme il veut, il faut que ça colle, d'accord ? C'est aussi simple que ça. Lorsque Luc Dardenne, que je ne connaissais pas, est venu me voir et il m'a dit, pardon de raconter cette histoire un peu privée, mais il sait que je la raconte, lorsqu'il m'a dit, est-ce que vous acceptez de regarder mes notes ? Les notes d'un journal, Luc Dardenne. Un des deux frères Dardenne, cinéaste. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, je serais très heureux. Il dit, mais est-ce que vous me direz vraiment ce que vous pensez ? Ah, je lui ai dit, écoutez, j'ai pas le choix. Je vous assure que je vous dirai. Parce que si je publie un livre faible d'un jeune chercheur inconnu, personne ne le verra. Mais un homme qui a une palme d'or, il en avait déjà et bientôt deux, à Cannes, avec une œuvre cinématographique étudiée dans le monde entier. Je dis, pour vous, si c'est un texte faible, ça n'a aucun sens. C'est pas grave pour vous. Pour moi, ce serait une catastrophe. J'ai pris ce texte, le jour où il me l'a donné. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Je pleurais. C'est aussi bête que ça. La première phrase, c'est un verbe. Résister. Point. L'œuvre d'art est faite de résistance et ainsi de suite. Il faut lire cela. Je dis ça comme pour tous les autres livres de cette collection au seuil. C'est vrai qu'il y a, entre le savoir et l'émotion, pour moi, quelque chose de fondamental qui est merveilleusement incarné aussi dans l'œuvre d'Yves Bonnefoy, qui est dans la collection, et tant d'autres. Enfin, on ne peut pas tous les nommer.
Vous parliez de votre volonté d'un savoir démocratique. Je crois qu'une des conditions aussi pour amener les textes à un public plus large, pour vous, c'est de mettre les savoirs en récit. Comment on raconte les savoirs pour vous ? Par quoi ça passe ?
C'est vrai que c'est sans doute la chose la plus difficile. On a envie de dire que un livre, c'est une œuvre à deux. C'est un auteur, bien sûr un éditeur si on veut, mais que je mets, c'est vrai, volontiers entre parenthèses. C'est un auteur et une lectrice ou un lecteur. Chacun fait la moitié du travail. L'auteur, il faut à la fois qu'il soit entièrement en accord avec lui dans ce qu'il écrit, en adéquation, et le lecteur ne doit pas avoir la lectrice peur de lire et de relire et de relire. Je n'ai jamais cessé lorsque, peut-être que mon affaire de lecture avec apprenant, bon, je connaissais l'alphabet, mais enfin, je ne lisais rien. Lorsque je me suis mis à lire, j'ai compris que je ne comprenais pas. C'est très important, hein. La majorité des gens, ils font semblant de comprendre tout le temps. Mais c'est pas grave de faire semblant de comprendre. Pour réussir des examens, ça marche très bien. Moins on comprend, plus on y va, plus on peut être diplômé, patenté et tout le reste. Mais dans la vie, c'est une catastrophe de faire semblant de comprendre. Et d'abord de faire semblant de se comprendre, parce que lorsqu'on se trompe sur soi, on se trompe sur lui. Enfin bref, on vit très 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 mal après. Donc vous me dites, oui, Pour moi, cette collection est une œuvre extrêmement, l'ensemble de ses livres est ouverte et offerte à un public que je souhaite très large et dont je fais partie en premier, mais pour un public qui accepte de lire et quelquefois de relire certaines pages, de s'en imbiber et de ne pas avoir peur d'avancer sans comprendre. Après tout, lorsque je vois aujourd'hui, moi, je prends tel ou tel texte, philosophique ou autre, difficile, mais attendez, si je pige 20%, 30%, c'est énorme, c'est très bien, il ne faut pas tout comprendre, il ne faut pas tout savoir. Voilà mon rapport au texte, un rapport de non-maîtrise.
C'est difficile comme affaire de ne pas maîtriser, surtout quand il s'agit de savoir. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'être dans une forme de compréhension. Donc, est-ce que ces textes-là, ils ne sont pas exigeants de ce point de vue-là, c'est-à-dire de baisser les armes et d'accepter d'être dans une forme de non-maîtrise? C'est très compliqué, non?
Vous touchez là peut-être à quelque chose d'essentiel, mais bien sûr, sur 220 titres, je peux me tromper. J'espère que dans cette collection, la librairie du XXIe siècle, au seuil où elle est aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait, je vais être très modeste, le moins possible d'œuvres dogmatiques. La dogmatique, c'est le lieu où le savoir dit la vérité. Et probablement, pour Maître Coltiner, avec les constructions mythiques, qui sont à la fois ce qu'on a de plus somptueux dans l'histoire humaine, après tout, les religions sont des inventions humaines, et j'adore les religions, pas ce qu'elles produisent, mais leur récit. D'ailleurs, de voir la Bible, le Coran, tous les autres, les grands textes chinois, indiens, ce sont des textes, ce sont des constructions extrêmement élaborées. Lorsque la science au XIXe siècle, ou en d'autres temps, lorsque la théologie affirme qu'elle est vérité entière et pure, de mon point de vue, elle est dangereuse. Et lorsque vous posez la question de la maîtrise, ça passe peut-être par là, oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de trembler en lisant. Moi, quand j'écris, je tremble beaucoup.
Être éditeur, avec toutes les réserves liées à l'emploi de ce mot, est-ce que ça vous a appris à lire? Est-ce qu'on peut apprendre à lire?
Ah oui, oui. Mais d'abord, j'ai beaucoup appris de tous les auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer et d'éditer. Et ben, d'abord, ça m'a forcé à lire, parce qu'il n'y a aucun livre de cette collection, un seul, je vais dire lequel dans un instant, aucun livre que je n'ai pas lu intégralement, sans sauter une virgule, un espace ni rien. Donc oui, ça m'a appris à lire. La seule exception est une réimpression de la thèse d'Henri Atlan, l'organisation biologique et la théorie de l'information. Comme ça avait été édité d'abord par l'édition Hermann, j'ai repris ça. Il a fait une préface inédite. J'ai lu sa préface, je suis un peu rentré dans le texte, mais non, ça je pouvais pas tout comprendre, savoir. Mais ça peut être un rapport esthétique au savoir que de lire sans comprendre. Après tout, comme d'écouter une musique qui nous paraît étrange, la poésie et la poétique souvent tiennent ce rôle également dans nos savoirs.
Merci Maurice Hollander, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Maurice Hollander. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.